Seigneur, merci car lors d'un culte, nous pouvons te dire tant de choses et toi, tu peux nous dire tant de choses. Nous te prions de nous donner un cœur réceptif et des oreilles et des yeux ouverts afin que nous puissions voir, écouter et agir. Au nom de ton Fils bien-aimé. Amen. Je vous propose une lecture dans l'évangile de Luc, chapitre 17. Luc 17, à partir du premier verset. Luc 17, verset 1. Jésus dit à ses disciples, « Il est inévitable qu'il y ait des pièges, mais malheur à celui qui en est responsable. Il vaudrait mieux pour lui qu'on attache à son cou une meule de moulin et qu'on le jette à la mer, plutôt qu'il ne fasse trébucher un seul de ses petits. Faites bien attention à vous-même. Si ton frère a péché contre toi, reprends-le, et s'il reconnaît ses torts, pardonne-lui. S'il a péché contre toi 7 fois dans une journée, et que 7 fois dans la journée, il revienne vers toi et dise « J'ai eu tort », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur « Augmente notre foi ». Le Seigneur dit « Si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. Si l'un de vous a un esclave qui laboure ou garde des troupeaux, lui dira-t-il à son retour des champs, viens tout de suite te mettre à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ajuste ta tenue pour me servir jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et tu boiras. A-t-il de reconnaissance envers cet esclave parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Je ne pense pas. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et se mirent à lui dire, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit, « Allez vous montrer au prêtre. » Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu? » Puis il dit, « Lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. » 19 versets. On ne va pas les lire et les étudier en détail, mais il y a plusieurs sujets abordés dans ces versets, et j'aimerais m'en tenir à 2. Le premier, le pardon. Le deuxième, la reconnaissance. Et je ferai une petite mention de notre service, de notre travail en tant que chrétien. D'abord, le pardon. Je ne vais pas vous demander de lever la main, mais cochez la bonne case. Trouvez-vous qu'il est facile de pardonner à quelqu'un qui vous a fait mal? Oui? Non? Parfois, Rarement, jamais. Pardonner à un parent qui t'a abusé. Pardonner à un terroriste qui a tué ton épouse, qui t'a rendu infirme. Pardon à un voisin, à un collègue, au patron. Pardonner à un enfant. Le pardon dans le mariage, une réalité visible ou une entité invisible? Le pardon entre étudiants, entre amis, entre chrétiens. Pardonnez à ceux qui vous persécutent. D'ailleurs, on peut se poser la question, le pardon, est-ce que c'est un événement ou est-ce que c'est un cheminement? Peut-être la réponse est oui à ces deux questions. Le pardon, on a plein d'exemples du non-pardon. Le 12 juillet 1998, que faisiez-vous vers 23 heures ce soir-là?
La fête.
Voilà, Colin faisait la fête. Il y a eu une soirée spéciale dans cette salle, me semble-t-il, à l'époque. Mais, ce soir-là, on a eu un exemple du non-pardon magistral. L'entraîneur de l'équipe de foot à l'époque, comment il s'appelait déjà? Voilà, il y a quelques personnes qui ne sont pas endormies. Aimé Jacquet, qui avait été critiqué, il aurait été crucifié si on avait pu. Tant de journalistes détester cet homme et ses choix. Et le soir, avec la Coupe du Monde dans sa main, le journaliste devant le Stade de France qui était rempli, devant des millions de téléspectateurs, on lui a dit, est-ce que vous allez maintenant pardonner à tous ceux qui vous ont critiqué? Et la réponse, textuellement, texto, il a dit, non. Pardonner? Jamais. Il avait été dans ses droits, hein? Qui sommes-nous pour le critiquer? Le non-pardon, on connaît. Le pardon, de temps en temps, peut-être, on connaît. Il y a la prière du pardon dans Matthieu chapitre 6. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et plus loin, nous lisons, si vous ne pardonnez pas aux autres, comment voulez-vous que Dieu vous pardonne? La prière du pardon, il est le commandement du pardon. Jésus le dit ici, pardonnez, même si le gars vous a fait mal 7 fois dans la journée, pardonnez. Et ailleurs, nous avons d'autres textes. Soyez bons les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Christ. Éphésiens 4, Colossiens 3 et bien sûr Luc 17. La prière de pardon, le commandement de pardon, il y a aussi la parabole du pardon. Matthieu 18, Jésus raconte une parabole et il dit, vous devez pardonner 70 fois 7 fois. Et heureusement, avant de venir, j'ai sorti ma calculette et je vous ai mis la réponse. Énorme. Pardonner. Même à celui-là, même à celle-là qui me fait ça. Seigneur, c'est impossible. Mais est-ce que le mot impossible est un mot chrétien? Un exemple du pardon, Luc 23. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Un exemple de Jésus, parmi d'autres. En Genèse 50, même avant, nous voyons que Joseph a pardonné à ses frères. Et ils ont fait beaucoup de mal à Joseph quand il était ado. Et il a beaucoup souffert pendant des années à cause des mensonges et de la méchanceté de ses frères. David, de Samuel 9, qui a pardonné à la famille de Saül en faisant du bien à Méphibosheth. Paul demande à Philémon dans sa courte lettre de pardonner à Onésime, son ancien esclave, qui a peut-être volé des choses, cassé des choses, et qui a pris la fuite. Pardonne-lui, dit Paul à Philémon. Et puis le fondement du pardon, c'est quoi? 1 Corinthiens 13, l'amour pardonne presque, non, l'amour pardonne tout. Ça, c'est facile à dire, hein? Pas toujours facile à faire. Je me demande si quelqu'un ici connaît l'IRP. Il ne s'agit pas d'un nouveau parti politique dont je suis le président, rassurez-vous. L'Institut international de recherche sur le pardon, ça existe. Et cet institut international a un mot d'ordre et un avertissement. Le mot d'ordre, pardonner, c'est un choix. Qui va contredire ça? Et l'avertissement. La contrariété peut rendre malade. Se réconcilier aide à surmonter la contrariété. En même temps, pardonner peut contribuer à résoudre des problèmes de sommeil. Alors, vous savez bien qu'il y a des gens qui se rendent littéralement malades à cause de l'inquiétude. Et d'autres se rendent littéralement malades à cause d'une contrariété ou d'un manque de pardon, ou d'une envie de vengeance, ou de la haine, et autre chose. C'est formidable de pouvoir bien dormir, quand on est en paix avec Dieu, et dans la mesure du possible avec les autres. Cet institut international est tout à fait en accord avec un proverbe chinois qui dit ceci: quiconque choisit la violence devrait creuser deux tombes. Ça veut dire quoi? Si je choisis la vengeance au lieu du pardon, je vais vouloir tuer la personne, donc je vais creuser sa tombe, mais ça va me rendre tellement malade que je devrais creuser ma tombe. Proverbe, sagesse de la Chine. Autrement dit, nous sommes toujours devant un choix. Est-ce que je vais vouloir pardonner ou est-ce que je vais vouloir chercher à me venger? Est-ce que je vais garder rancune dans mon cœur? On rencontre des gens qui sont très rancuniers et certaines personnes se vantent d'être rancunières. Mais t'as vu, je garde rancune, hein? C'est normal. Comment veux-tu que je pardonne, même si je suis chrétien? On se trouve face à tout un tas de personnes. Peu de gens ici savent que pendant mon enfance et mon adolescence, j'ai beaucoup souffert. J'ai beaucoup souffert à cause des choix professionnels de mon père. À cause de ces choix professionnels, on a déménagé tous les ans, tous les 15 mois. Parfois, 3 fois dans une année, on a déménagé. 3 lycées différents la même année. Et à cause de tous ces déménagements, tous les 12, tous les 15 mois, ça a bousillé mon éducation. J'étais bourré de tics, j'étais bègue, je ne parlais pas pendant quelques années, surtout quand j'étais plus jeune, et beaucoup de conséquences dont le Seigneur m'a aidé à gérer et à guérir. Mais il a fallu, il y a des années, que je me mette seul, à genoux, devant Dieu, et de demander pardon, de ne pas avoir pardonné mon père. Et par la même occasion, j'ai pardonné à mon père pour ses choix. Et je peux vous dire que ce jour-là, 2 choses se sont passées. Une joie a rempli mon cœur et le poids que j'ai porté a disparu. Alors, je dis ça parce que j'ai une sœur aînée qui n'est pas au Seigneur et qui en veut toujours à mon père. Et chaque fois qu'on parle de ce sujet, l'agressivité ressort chez elle. Hein? Pardonner est un choix. Avant de quitter ce sujet du pardon, qui est un sujet vaste, J'aimerais reposer la question sous un autre angle. Si moi, je dois demander pardon à quelqu'un, à vous, à toi, si je dois demander pardon à quelqu'un parce que j'ai fait mal, parce que j'ai offensé la personne, eh bien, je pense qu'il y a plusieurs étapes que je dois respecter. Et je vais vous en énumérer 5, qui commencent avec la même lettre, la lettre R. Si je veux demander pardon à quelqu'un, je dois déjà exprimer mes regrets. Ça ne suffit pas. Mais je dois déjà exprimer, mais je regrette ce que j'ai fait. Ensuite, je dois accepter, c'est ma responsabilité. Si je dis, au fait, je te demande pardon, mais tu sais, pourquoi j'ai agi comme ça, c'est parce que tu as fait ça, et elle a fait ça, et lui, ben non, c'est ma faute. Je suis le responsable. Ensuite, restitution. Si j'ai cassé, si j'ai volé quelque chose, je dois essayer, dans la mesure du possible, mais ce n'est pas toujours possible de restituer. Si j'ai sali la réputation de quelqu'un, comment voulez-vous que je restitue ça? Repentance. Se repentir. Faire demi-tour. S'engager à ne plus commettre la même chose. Et puis là, enfin, la requête, la demande, s'il te plaît. Je regrette. Je suis fautif. Voilà, je te rends. Je me repens. S'il te plaît, pardonne-moi. C'est énorme d'en arriver là. Le pardon. Il est question aussi du service. Et juste, j'aimerais juste souligner ce qui est écrit. Il est question d'esclave, d'un maître. Et le maître ne va jamais dire à l'esclave, « Oh, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait. » C'est normal. Et d'où cette phrase, « Nous sommes des serviteurs inutiles. » Alors, j'aimerais juste vous rappeler que sans Dieu, nous ne sommes rien. Et sans Dieu, nous ne pouvons rien. Niet. Nothing. Nous sommes des serviteurs inutiles. Et même si on fait des monts et merveilles pour le Seigneur, dites-nous bien que nous sommes des serviteurs inutiles. Tout ce qu'on fait vient de Dieu. Vos dons, vos talents, ça ne vient pas de vous, ça vient de Dieu. Et on doit devenir humble, rester humble, sachant que sans Dieu, on n'est rien. On ne peut rien. Mais comme dit Paul dans Philippiens 4, avec Dieu, je puis tout par celui qui agit puissamment en moi. Le service, l'obéissance. Maintenant, la reconnaissance. La reconnaissance. 10 hommes sont gravement malades. Aucun espoir. Aucun traitement. À cause de cette maladie terrible, ils avaient été rejetés par tout le monde. Ils étaient au banc de la société. Ils ne pouvaient plus fêter. Ils ne fêtaient pas Noël, bien sûr, à l'époque. Les anniversaires ou quelle que soit la fête en famille. Ils étaient exclus de toute activité culturelle, sociale. Considérés comme sales. Impurs, contaminés et contaminants, obligés de se confiner 24 heures sur 24 pour le restant de leur jour. Une parole de la part de Jésus, et ils sont miraculeusement et merveilleusement guéris. Incroyable, mais vrai. Et vous avez remarqué qu'ils sont venus vers Jésus. Souvent, Jésus va vers quelqu'un qui souffre. Mais là, c'est eux qui viennent vers lui, tout en se tenant à distance. Il y a la distanciation, qui est un nouveau mot peut-être, mais ça existait déjà à cette époque-là. Heureusement pour eux, je pense. Tous guéris. Et puis combien reviennent pour dire merci? 10? 9? 8? Quand même 50%? Non. Un seul. S'agit-il d'une erreur textuelle? D'une faute de frappe? Un. Et en plus, c'était un étranger. Et vous savez, les Juifs et les Samaritains disent comme ça. Un Samaritain. Il vient dire merci. Alors, on peut prendre des pierres et les jeter sur les neufs. Mais est-ce que parfois, on ne ressemble pas aux neufs? Parfois, on ressemble à celui qui a dit merci. Mais bien souvent, je pense qu'on peut ressembler aux neuf autres. Alors, la reconnaissance. Qu'est-ce que c'est la reconnaissance? Selon le dictionnaire, c'est l'action de reconnaître quelque chose ou quelqu'un, un sentiment qui témoigne qu'on se souvient d'un bienfait reçu. Et la gratitude, la reconnaissance pour une idée, un service rendu. Gratitude, reconnaissance sur le plan horizontal, vertical et horizontal. Entre nous, mais aussi envers le Seigneur. Et encore, tout comme le pardon qui est souvent mentionné dans la Bible, il est souvent question de la reconnaissance. 1 Thessaloniciens 5, 18. Restez reconnaissant quoi qu'il arrive. Cela ne veut pas dire être reconnaissant pour ce qui arrive, mais quoi qu'il arrive. On peut toujours dire merci au Seigneur pour certaines choses. Dans les prières de Paul, il fait monter des requêtes de reconnaissance envers le Seigneur. Souvent, au début des épîtres, il remercie Dieu pour les chrétiens auxquels il écrit. Dans de nombreux psaumes, il est question de la reconnaissance. Même un psalmiste dit, du lever du soleil jusqu'à son coucher, je veux louer le Seigneur. Ce qui veut dire qu'avant de sortir de votre lit, vous avez le droit, ou devrais-je dire, le devoir, de remercier le Seigneur. Et quand vous êtes au lit le soir, avant de faire dodo et de vous jeter dans les bras de Morphée, eh bien, dites merci aussi. Tellement de sujets de reconnaissance. Même quand on prend un repas. Vous savez, on remercie le Seigneur avant un repas. C'est pas une tradition, mais il en est question dans 1 Timothée 4. Prendre ses repas avec reconnaissance. Dans le dernier discours de Moïse, il est souvent question de la reconnaissance. Et puis, bien sûr, qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants, nos petits-enfants? On veut leur enseigner les mots magiques. S'il te plaît. Et l'autre? S'il te plaît et merci. Des mots magiques, même si on ne parle pas toujours de la magie. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que nous sommes des chrétiens reconnaissants? Ou est-ce que nous sommes des chrétiens? C'est quoi le contraire? Râleurs? Ingrat, ça existe. On doit être reconnaissant et envers le Seigneur et envers les autres. Et comme la Bible nous demande de pardonner aux autres, nous devons aussi être reconnaissants envers les autres. Charles Wesley, le frère de John, l'évangéliste, il est mort en 1788. Il a écrit ce cantique qu'on chante plus ou moins, mais « Seigneur, que n'ai-je mille voix ?» Il a écrit ce chant un an, jour pour jour, après sa conversion. Et dans la version anglaise, il dit « Seigneur, que n'ai-je mille langues pour chanter tes louanges ?» Tellement il était reconnaissant envers le Seigneur. Un chant qu'on chante depuis 10 ans en France et dans le monde, c'est le chant de Matt Redman. 10 000 raisons pour louer le Seigneur. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme. Bénissons ça. Non, j'oublie un peu les mots, mais les paroles. Mais à un moment donné, il parle de 10 000 raisons, et à la fin, il dit on aura des millions de raisons au ciel pour dire merci au Seigneur. On devrait commencer ici-bas, être reconnaissant, parce que là-haut, on le sera et on le dira. On dira merci au Seigneur. Il y a quelques années, Brigitte et moi, on allait rendre visite à quelqu'un qui habitait en Lyon 3e, On ne connaissait pas trop Lyon à l'époque. Et pour se garer dans ce quartier, c'était hyper compliqué. Donc, j'ai déposé Brigitte chez la dame. Et puis, j'ai dit, écoute, tu attends 2 minutes. 2 minutes. Et je vais trouver une place de parking. Bon, j'ai tourné. Et enfin, j'ai vu une place. Donc, je me suis mis tout de suite. J'ai dit, ah, merci Seigneur. J'ai sorti de la voiture, fait ma clé. Et je me suis dit, bon, je ne sais pas où je suis. Alors, je sais où est Brigitte et la maison. Donc, il faut que je relève l'adresse. Donc, je regarde. Et quelle était la plaque du nom de la rue? Sans blague. Place de la reconnaissance. Ah. Le Seigneur fait bien les choses. Alors, en parlant de la reconnaissance, juste quelques citations avant de finir. Nous ne devrions pas laisser passer 24 heures sans remercier le Seigneur Jésus d'être mort à notre place sur la croix. Citation de Madame Onim, du prénom Anne. Un auteur allemand du 19e siècle, si tu voulais remercier Dieu pour toutes les joies qu'il te donne, il ne te resterait plus de temps pour te plaindre. Intéressant. Je ne sais pas comment il a fait ses calculs, mais je suis sûr qu'il avait raison. Une pièce de Shakespeare, je l'ai mis en anglais, sans savoir qu'il y aurait des Américains ce matin, et aussi en français. Avoir un enfant ingrat fait plus de mal qu'une morsure de serpent. Shakespeare. Un cœur reconnaissant jouit deux fois des bénédictions, lorsqu'il les reçoit et lorsqu'il s'en souvient. C'est vrai, hein? La reconnaissance, c'est un homme d'affaires français, Antoine Bernheim, la reconnaissance est une maladie du chien non transmissible à l'homme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais faire la traduction. On avait un chien, un cocker, qui était coquin. Et quand il était content, qu'est-ce qu'il faisait? Ça pétait que, il agitait. Parce que c'était pour montrer qu'il était content et presque aussi pour dire merci. Les chiens savent être reconnaissants. Mais parfois, bah, maladie, on aurait pu mettre ça entre guillemets, mais beaucoup d'hommes et de femmes ne savent pas être reconnaissants. De façon horizontale, de façon verticale. Il nous faut une attitude de gratitude. Johnny Erickson Tada, qui il y a 57 ans, je crois, s'est cassé la nuque dans un accident de plongée. 57 ans dans un fauteuil roulant. 57 ans des soins, des opérations et tout ce qu'on veut. Et elle aime le Seigneur et elle enseigne les chrétiens à être reconnaissant et avoir une attitude de gratitude. Cette phrase vient d'un CD que j'avais fait pour enfants. Et puis une autre citation anonyme. Ne murmurez pas parce que vous n'avez pas ce que vous voulez. Soyez plutôt reconnaissant de ne pas avoir ce que vous méritez. Et en tant que chrétien, nous ne méritons rien sauf la colère juste d'un Dieu trois fois saint. Et Dieu nous bénit. Dieu nous gâte. Je conclue. Le pardon, le service, la reconnaissance. Connaissez-vous Kim Fook? Alors, certains le connaissent sans le savoir. Je vais vous montrer sa photo. Et puis, ça va vous rappeler certaines choses. Pour certaines personnes, en tout cas. Cette photo a fait et continue à faire le tour du monde. Nous sommes en 1972 au Vietnam. Et Kim Phuc avait 9 ans à l'époque, ou 10 ans à l'époque. Et elle a été horriblement brûlée lors d'un raid aérien où le napalm a été répandu sur son village. Le napalm, c'est un herbicide qui est devenu arme de guerre et qui brûle et qui colle littéralement à la peau. Et là, elle fuyait de son village avec d'autres enfants. Les autorités américaines avaient dit qu'il n'y aura aucun civil que des Viet Cong dans ce village. Donc le pilote est arrivé, il a lâché ce qu'il fallait lâcher, puis il est parti. Kim Phuc a été soigné pendant des années, opération après opération, hôpital après hôpital. Et finalement, elle s'est convertie. Elle a finalement atterri au Canada. Elle s'est mariée. Et il y a quelques années, à la fin d'une cérémonie avec des vétérans de guerre de l'armée américaine, elle était là, elle a pris la parole. Et puis, elle a parlé de cette photo, de cette expérience. Et elle a dit, plus ou moins textuellement, « Si jamais j'ai rencontré le pilote qui était responsable de ça, eh bien, je serais prêt à lui pardonner. » OK. À la fin de la cérémonie, John Plummer, un ancien pilote américain, s'est avancé de Kim Phuc en larmes. Et il n'arrêtait pas de répéter « Pardonnez-moi, pardonnez-moi, pardonnez-moi. » Ils se sont parlé et c'était lui, le pilote, responsable de la mort de tant d'enfants et de la souffrance de Kim Phuc et d'autres. Il répétait sans cesse « Pardonnez-moi, pardonnez-moi. » Ils se sont embrassés, elle a pardonné et ils ont fait des réunions publiques après ça. Suite au pardon. Parce que lui, entre-temps, s'était converti et était devenu pasteur d'une église. C'est fou ce que Dieu peut faire. Si Kim Phuc était ici aujourd'hui, elle vous parlerait de la joie de pouvoir pardonner. Elle vous parlerait du poids qui est tombé parce qu'elle a su pardonner à cet homme pour des années de souffrance et un corps de femme complètement abîmé. Abîmé. Elle pourrait parler de la joie de pardon. Elle vous dirait aussi, parce qu'aujourd'hui, elle est ambassadrice de la bonne volonté de l'UNESCO. Elle était en France il y a 2 ans d'ailleurs, invitée par la Maison de la Bible. Eh bien, elle parlerait aussi du fait qu'elle est juste une servante inutile. Elle sait que sans Dieu, elle ne peut rien. Mais avec Dieu, elle peut faire des choses. Et elle dirait aussi, mais je suis reconnaissante. Reconnaissante car Dieu m'a sauvée. Reconnaissante parce que Dieu me permet de pardonner à cet homme-là et à d'autres parce qu'elle a perdu sa famille dans cette guerre au Vietnam. Alors, je vous encourage. Si vous avez besoin de pardonner à quelqu'un, de pardonner. Sinon, ça peut ronger comme la gangrène. Si vous avez besoin de demander pardon à quelqu'un, eh bien, allez-y. Mais je vous encourage aussi à être des gens ou des chrétiens reconnaissants. Pas ingrats, mais reconnaissants. Avec une attitude de gratitude. Reconnaissant envers les autres, surtout reconnaissant envers le Seigneur. Et si nous pardonnons, si on sait qu'avec Christ on ne peut rien, et si on est reconnaissant, on aura cette paix comme un fleuve qui envahit notre cœur. Et ça, ça vaut de l'or. Prions. Seigneur notre Dieu, merci car c'est toi qui nous as pardonné en premier lieu. C'est toi qui nous as aimés d'abord. Nous te prions de nous aider à aimer, de nous aider à pardonner et de nous aider à être reconnaissants. Nous avons tant de choses. Nous sommes bénis de tant de manières différentes. Malgré nos épreuves, malgré nos challenges, malgré les décisions difficiles à prendre. Merci car nous sommes des enfants choyés, précieux à tes yeux. Aide-nous à vivre la lumière de cette vérité aujourd'hui et tous les jours. Au nom de Jésus. Amen. Avant de m'asseoir, j'ai juste à cœur de dire que si quelqu'un a vraiment besoin, pas envie, mais besoin de pardonner ou d'être pardonné, d'aller voir un des anciens ou un autre frère ou sœur dans l'église qui pourrait vous aider et prier avec vous et pour vous. Merci.